Donc, Famille Je T'aime est une association protestante évangélique qui a été fondée en 1989 à Guipillers. Et donc, cette association s'est donnée pour mission d'accompagner les familles, d'aider les églises à accompagner les familles aussi dans l'église, puisque on sait tous bien, à partir du moment où on s'est tourné vers Dieu, tout n'est pas réglé. Et c'est vrai qu'un temps, on a eu du mal à concevoir aussi que des familles chrétiennes puissent se retrouver en difficulté. Et du coup, on n'osait pas trop le dire. Et les souffrances étaient pourtant bien, bien réelles. Et donc, cette famille a mis en place toute une série d'enseignements par rapport à la famille, au couple, à la communication, à la relation d'aide aussi, afin de pouvoir être partenaire de ces personnes, de ces couples, de ces familles qui se retrouvent à un moment donné coincées dans des difficultés récurrentes. Et notre objectif, outre le fait d'apporter une aide temporelle, c'est vraiment d'aider les uns et les autres à développer leur relation avec Dieu, à développer une communication, une appropriation des vérités bibliques, pour que nous n'ayons pas un cerveau bicéphale avec d'un côté toute la connaissance bien, bien fixée là, et puis une difficulté à vivre cette connaissance dans notre vie de tous les jours. Or, Christ ne souhaite pas que nous ayons une connaissance intellectuelle de lui, mais que nous ayons une vie par l'esprit, une vie en relation avec lui. Sans quoi, ce n'est que de l'orgueil spirituel, comme on peut avoir des connaissances dans beaucoup de domaines. Mais si ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. On aura perdu beaucoup de temps à apprendre des choses qui ne nous servent à rien au quotidien et qui nous empêchent d'être témoins en premier lieu dans notre famille, dans nos différents lieux d'appartenance, dans l'église, témoins auprès du monde. Donc voilà, Famille Je T'aime a mis un certain nombre d'activités en place, support. Donc tu as parlé de la formation à la relation d'aide, puisque nous sommes convaincus qu'il est important que dans chaque église, il y ait des frères et sœurs qui soient capables d'accompagner, outillés pour pouvoir accompagner à long terme, apporter une aide spirituelle et pratique à ceux et celles qui souffrent. Et nous pensons que ce n'est pas que le ministère des pasteurs ou des anciens. Des fois, ils ne sont pas formés à la relation d'aide. Et nous pensons aussi que on ne peut pas apporter de réponse facile, parce que chaque situation est bien, en tout cas, spécifique, et qu'on ne peut pas réagir pas blanc ou noir ou lisse versa. C'est bien, je vais prier pour toi et allez, vas-y. Non. Il y a besoin d'écouter vraiment, de prendre en considération la vie des uns et des autres. Et parfois, il faut apprendre à le faire, afin des fois apprendre aussi à se taire. Tout simplement, et quand on n'a pas de suggestions à apporter, dire « je ne sais pas ». Plutôt que de vouloir absolument apporter une réponse toute faite. Donc vous pourrez découvrir toute la palette d'activités, une partie de la palette d'activités. On préfère aussi prévenir que guérir. On organise aussi des week-ends fiancés, jeunes mariés. Parce que c'est important, dans certaines églises, il n'y a pas de préparation au mariage. Et donc, pourtant, il est important de pouvoir, avant de s'engager pour la vie avec quelqu'un, de s'y préparer, aborder différentes thématiques et pouvoir prendre du temps ensemble pour parler. Et des fois, malheureusement, on est trop pressé, on fait les invitations, on réserve la salle, le traiteur, et on se prépare au mariage après, en quelque sorte. On oublie on brûle des fois les étapes. Donc, pour personnes qui se fréquentent, parce que c'est important de peut-être faire le point quand on se fréquente pour voir s'il est sage d'aller plus loin ensemble. Fréquente fiancés, jeunes mariés, puis on a aussi des camps famille sur le couple, avec la thématique du couple, être parent aujourd'hui, des week-ends père-fils, des week-ends mère-fille, des interventions dans les églises pour une thématique ou pour une autre, que ce soit pour une soirée, un message, une journée, un week-end, une semaine de retraite de l'église, enfin à configuration variable à définir en fonction des besoins des uns et des autres. Et on est en train de réfléchir aussi à mettre en place des week-ends pour des personnes qui ont vécu le divorce, pour qu'elles puissent se reconstruire, parce que souvent on est passablement impacté et on souffre beaucoup souvent après avoir vécu ces traumatismes. Et puis les séminaires J'ai besoin de changer qui vraiment nous questionnent par rapport à notre statut de fils et de fille de Dieu, parce que bien souvent quand on n'est pas conscient de cela, on peut, avec une coloration chrétienne, continuer à vivre, à raisonner, à se défendre, à réfléchir comme des personnes du monde. Parce qu'on n'est pas conscient de tout ce capital que l'on a, on n'est pas conscient de la valeur que l'on a, et on continue des fois à considérer que notre valeur est définie par les différents discours qui nous ont traversés dans notre vie, est définie par nos réussites ou par nos échecs. C'est une erreur profonde. C'est Dieu qui nous donne cette valeur. Et il est important donc de pouvoir prendre ce temps de recul pour réfléchir à cela, et puis pour s'approprier ce que nous sommes. Et un autre séminaire, Mon combat spirituel, qui est un combat dans lequel on prend conscience aussi des ornières dans lesquelles on peut se retrouver, et on peut, à la lueur des vérités de la parole de Dieu, déclarer non, je ne suis pas condamné à fonctionner comme ça, je ne suis pas condamné à rester dans cette ornière, mais la Bible me dit que, et je choisis de croire cela. Et je refuse les mensonges, d'où qu'ils viennent, qui jusqu'à présent m'ont empêché de vivre cette liberté en Christ, cette victoire de fils et de fille de Dieu. Voilà, je vous laisse prendre après, il y a un flyer général, prenez ce que vous voulez, j'en ai encore en réserve si vous le souhaitez. Voilà, alors pour ma part, en tout cas, ça fait 10 ans que le conseil d'administration de l'association m'a accordé cette responsabilité de directeur de Famille Je T'aime. Donc je suis marié depuis 33 ans avec Cécile, nous avons 6 enfants, nous avons aussi 3 petits-enfants, et voilà, nous vivons à Bulle, à côté de Guebwiller, à 4 km de là où Francine se forme à la relation d'aide biblique. Voilà, et donc nous avons un ministère qui est principalement en France, des fois en Suisse. On avait, il y a quelques années, en 2013, une formation à Colombier, Fontaine, près de Neuchâtel. Et donc on n'est pas qu'en France, mais majoritairement, ou alors dans le monde, à travers la formation à la relation d'aide online. Donc là, il y a des personnes qui se connectent de tous les continents et qui se forment à la relation d'aide biblique. Voilà. On pourra échanger plus largement après, si vous le souhaitez. Donc... aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème sur la famille, donc être serviteur de Dieu dans ma famille, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit une famille de cœur ou qu'elle soit spirituelle. Des fois, on ne pense pas, on se dit, mais mon premier lieu de témoignage, mon premier lieu de service, c'est ma famille naturelle. Et pourquoi famille de cœur? Parce que parfois, la famille naturelle fait défaut. Et on peut se choisir, et on peut aussi juxtaposer une famille naturelle et une famille de cœur, une famille qu'on a adoptée en termes de relations, on aime bien être avec eux, et une famille spirituelle, bien sûr, la famille de l'Église. Et la famille en général est un lieu d'enjeu de pouvoir pour Satan, un angle d'attaque privilégié, car pour lui, les liens familiaux qui sont structurants, qui sont bons, qui sont à la gloire de Dieu, est vraiment un problème pour lui. Et il espère pouvoir attaquer chacun d'entre nous sous l'angle de la famille. Puisque lorsque cette espérance est déçue d'avoir une famille qui nous aide, qui nous aime, une famille qui nous aide à grandir selon le cœur de Dieu, il y a souvent des difficultés à discerner le sens de la vie. Je sers à quoi ? Est-ce que j'ai de la valeur ? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre, de croire aussi à la bonté de Dieu, de croire aux soins qu'il porte à ses enfants et à l'humanité en général. Et oui, parce que je crois que dans le cœur de chaque être humain, il y a la conviction forte que notre famille doit être un lieu de croissance, un lieu dans lequel on se sent en sécurité, un lieu dans lequel on peut partager, un lieu dans lequel on peut se bénir les uns les autres, un lieu de solidarité avec les personnes de tous les âges. C'est quelque chose qui normalement est ancré dans la vie d'un être humain quand il naît dans sa famille, quand il croit, en tout cas il espère cela. Et donc, nous pouvons attendre beaucoup de nos familles. Et parfois, il est nécessaire de faire le deuil d'une famille idéale. Mais nous pouvons tous, parce que nous sommes fils et filles de Dieu, choisir de bénir quand même cette famille, d'autant que cela dépende de nous. Que l'on soit personnes âgées, que l'on soit grands-parents, parents, que l'on soit enfants, on peut chacun apporter notre contribution. Et j'espère que les célibataires parmi nous se sentiront aussi concernés, parce que vous êtes aussi connectés à une famille, vous faites partie d'une famille, d'une manière ou d'une autre. Donc vous avez votre rôle aussi à jouer. Et donc, quelques questions qu'on va se poser, famille chrétienne ou non, est-ce qu'il y a des différences ? Chrétienne ou non, est-ce qu'il y a des différences ? Comment ma famille fonctionne-t-elle ? Être serviteur de Dieu entre les mains de ma famille, en tant qu'enfant, servir vos parents, servir nos parents, se servir les uns les autres et honorer Dieu. Je crois que j'ai oublié d'avancer. Ah, ça y est. Voilà, famille chrétienne ou non, est-ce qu'il y a des différences ? Alors, comme toutes les familles de la terre, hein, les couples vont devoir se créer, se constituer. Les couples vont devoir se gérer, surmonter ces difficultés. Et pour les parents seuls, il va falloir apprendre à gérer la gestion de la solitude. Nous avons des enfants à élever, des parents à attendrir ou à mettre en colère, des disputes à gérer, des factures à payer, des contretemps à gérer, un budget à tenir, des vacances à prévoir, une scolarité à gérer, à financer, des relations d'amitié à entretenir, des maladies et des deuils, des séparations à vivre. Comme toutes les familles de la Terre, nous vivons des réalités communes. Et donc, nous avons un objectif transversal. Mais en tant que famille chrétienne, nous sommes invités à réfléchir. Est-ce que nous voulons une vie de famille avec un projet humaniste ? Ou est-ce que nous voulons avoir une vie de famille avec un projet spirituel qui ne dépend pas des attentes, que des attentes de notre monde ? Et une famille centrée sur Dieu, centrée sur la parole de Dieu. Et les familles chrétiennes, à la différence des autres, choisissent de mettre Christ, normalement, au centre de leur fonctionnement. Elles acceptent comme étant plus sages de se tourner vers Christ et de tenir compte des enseignements de la parole de Dieu, de tenir compte de l'œuvre de l'Esprit, des messages que l'Esprit leur transmet au quotidien, plutôt que de s'appuyer sur des vérités temporelles qui, elles, sont très mouvantes aussi. Et même si elles sont bonnes sur certains plans, il n'y a pas à tout jeter, hein. Il y a franchement des fois des choix humanistes qui sont bons. Mais à partir du moment où Dieu n'est pas au centre, il n'honore pas Dieu et on manque le but. C'est de l'orgueil humain qui veut se débrouiller en dehors de Dieu. Et donc notre famille est le premier lieu de témoignage et d'adoration de notre Seigneur. Et tout au long de notre vie, nous voyons l'importance que Dieu attache à la famille et à ce qui s'y vit. Il n'y a pas d'un côté le dimanche, et puis d'un autre côté la vie de la semaine. Ça fait un tout. En semaine aussi, nous sommes invités à louer le Seigneur à travers tout ce que nous faisons. Et Josué aussi a fait le choix de la famille dans Josué 24, 15 en disant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et Malachie 4, 5 « Les autres peuples marchent au nom de leur divinité, mais nous, nous marchons au nom de l'Éternel, lui qui est notre Dieu, toujours et à jamais. » Et malgré les relations en dents de scie, parce qu'Israël n'a pas été toujours très droit, malgré les relations en dents de scie, dans Michée 4, il est dit « Les autres peuples marchent au nom de leur divinité, mais nous, nous marcherons au nom de l'Éternel, lui qui est notre Dieu, toujours et à jamais. » Alors comment notre famille fonctionne-t-elle? Alors je donnerai que trois façons un peu schématiques de définir les fonctionnements. Alors notre famille peut fonctionner avec des frontières fermées. Et dans cette famille-là, il y a de l'anxiété, chacun est en état de survie, il y a un manque d'assurance, un manque de confiance en Dieu. Et dans les autres membres de la famille, c'est un système qui est très codifié. Chacun sait comment il doit se comporter. Elle fonctionne en vase clos et dans le contrôle. Chacun se méfie les uns des autres. Les secrets de famille sont souvent présents. Et tout ce qui n'est pas dans la famille est potentiellement suspect. On ne peut pas discuter de choses qui viennent de l'extérieur, on ne peut pas remettre ou questionner le fonctionnement du système familial. C'est interdit. Et donc ces familles fonctionnent en famille fermée. Je pense au fonctionnement imposé par Nabal ou par Saül, où il y avait un fort contrôle de tout ce qui se vivait dans la famille. Donc après, il y a des familles avec des frontières perméables. Et ces familles-là ont un cœur, quelque chose qui les rassemble en termes de valeurs. Et ils font corps ensemble, ils se rassemblent. Chacun a le droit d'être différent, de s'habiller différemment. La parole circule, on a le droit de re-questionner le fonctionnement de cette famille. Et on a le droit d'avoir des échanges vrais. On peut dire ce que l'on pense. Là, je souffre. Là, tu me fais souffrir. Sans être dit, mais tu manques de foi. Il faut fonctionner comme ça. Tu dois faire comme ça. Et tout n'est pas considéré comme dangereux. On peut analyser les choses. Et c'est pas parce qu'on a toujours fonctionné comme ça qu'on doit toujours fonctionner comme ça. Peut-être pour assurer l'un ou l'autre. On peut discuter des différences, analyser ce qui est bon ou pas pour chaque personne, pour la famille. Il y a vraiment un désir de croissance, d'adaptation, pas à tout, mais d'adaptation en fonction de l'évolution de la famille. Et il y a un autre système avec les familles frontières ouvertes, là où c'est un manque de règles, il y a un manque de règles, un manque de cadre. Chacun fait un peu sa propre vie. On vit en juxtaposition les uns les autres, mais on n'a pas réellement une identité familiale. Et donc là, il y a un manque de sécurité aussi, parce que même si on sait qu'on fait intellectuellement partie de cette famille, on arrive difficilement à découvrir le paradigme de cette famille. C'est quoi cette famille, à y donner son identité? Alors, quel type de famille êtes-vous? C'est important de pouvoir avoir le courage de faire le point, une analyse de notre fonctionnement familial. Et moi, je pense, en tout cas, à mon avis, que Christ nous encourage plutôt à vivre une famille avec des frontières perméables. Perméables parce qu'il y a quand même un contour, mais on peut avoir des échanges avec l'extérieur. Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre. Et si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? La salera-t-on ? Le sel ne vaut plus rien. Cela est bon. Si ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Si on ne sert à rien pour le monde, le Christ ne nous a pas appelés à vivre en vase clos. Mais si on ne sert à rien pour le monde, si on n'a pas la saveur de Christ, on ne sert à rien. Vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il est même une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Donc, en étant dans cette perméabilité, il n'est pas question du tout de perdre notre identité de famille chrétienne, car le cœur du message de l'Évangile doit rester ferme et doit être conservé à tout prix. Mais je constate dans ma vie, dans ma pratique de conseiller aussi, que plus on est soi-même insécure, plus on bloque. Plus on a besoin de quelque chose, d'un système rigide pour se rassurer, pour contrôler, pour éviter de souffrir, pour éviter de se mettre en danger. Et plus on a de l'assurance, plus on a la capacité d'échanger les uns avec les autres, de dire « j'écoute sincèrement ce qu'il dit et j'analyse avec l'aide du Seigneur ce qu'on me dit pour voir s'il y a quelque chose qui m'interpelle, quelque chose à changer ou pour voir si c'est une autre pensée mais que je n'ai pas envie d'adopter. » Réfléchissons chacun à son propre fonctionnement. Comment je réagis? Et si je blinde les choses, est-ce que c'est parce que je manque d'assurance? Est-ce que peut-être c'est parce que je me dois de faire vivre un système dans lequel j'ai grandi, des règles dans lesquelles j'ai grandi et que je veux surtout pas que mes parents se sentent mal parce que je ferai différemment, ainsi de suite? Qu'est-ce qui nous motive à être comme ça? Ou carrément à faire le contraire, parce qu'on en a tellement bavé dans notre famille qu'on n'a surtout pas envie de reproduire, du coup, on jette même ce qui est bon. Ça peut aussi être une autre façon de réagir par rapport à son système familial. Et il est important dans nos familles, les sujets sociétaux soient échangés, qu'on puisse être à l'écoute de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos parents, pour essayer de se comprendre, pour voir comment on puisse vivre au mieux dans notre société, parce que nous ne sommes pas appelés à sortir du monde, mais à vivre dans le monde. Mais comment est-ce qu'on peut, nous, comprendre ce monde pour pouvoir être beaucoup plus apte à pouvoir témoigner auprès de lui. Et sans réponse éclairée, il faut bien l'entendre, sans réponse éclairée, nos jeunes iront les chercher ailleurs. Sans réponse éclairée, nos jeunes iront les chercher ailleurs. Et le monde ne se gênera pas de leur offrir des réponses, mais des réponses qui peut-être ne les éloigneront de Dieu, des réponses qui ne seront pas satisfaisantes dans une vie de chrétienne, de fils et de filles de Dieu. Donc ayons le courage d'aborder les questions et de ne pas répondre par blanc ou noir. C'est bien, c'est pas bien. Point. La vie, je crois qu'elle est un petit peu plus complexe que c'est bien, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien de voler, c'est vrai. Mais à d'autres sujets qui sont plus complexes, on ne peut pas y répondre d'une manière binaire comme ça. Donc servir au sein de son couple, en considérant son conjoint comme un vis-à-vis que Dieu a mis à côté de nous. Notre partenaire n'est pas un esservelé, n'est pas notre enfant que l'on doit éduquer, que l'on doit piloter et commander à notre guise. Notre partenaire est notre vis-à-vis que Dieu a placé à côté de nous. Comment nous plaçons-nous? Comment voyons-nous notre partenaire? Comment le considérons-nous? On voit dans la parole de Dieu que Elkana avait considéré un vrai vis-à-vis de Anne, qui pourtant n'a pas pu lui donner d'enfant les premières années de leur vie. Et il aurait pu la considérer, t'es bon à rien, quoi. Tu peux même pas m'offrir de descendance. Et pourtant, il l'a fait. Il l'a considérée comme une femme à part entière. C'est important de valoriser son conjoint qui gagne peut-être moins d'argent que nous et qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. C'est un travail et un investissement de valeur. Et est-ce que la valeur du conjoint et son droit de prendre des décisions dans la famille dépend de ce qu'il rapporte financièrement à la maison? Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans le monde, mais on ne voit pas ça dans la parole de Dieu. Est-ce que la valeur du personne est liée au fric qu'il rapporte, à l'héritage qu'il rapporte? Ça sont les pensées du monde, mais elles n'appartiennent pas à la pensée de Dieu. Et il est peut-être important de ne pas passer son temps à pointer ce que l'un ou l'autre fait ou ne fait pas, ou fait plus ou moins bien que nous. On n'a pas tous la même échelle d'appréciation de ce qui est nécessaire de faire. Pour certains, il faut toujours que la maison soit rangée picopello, presque en musée, quoi. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une petite saleté. Des fois que quelqu'un viendrait, il nous ferait une réflexion. Non, mais très souvent, si on analyse bien le pourquoi on veut que notre maison soit rangée ou pas, c'est parce qu'on a peur des remarques de nos parents, on a peur des remarques de nos conjoints, on a peur des gens qui diraient « Ah ben c'est ça, un chrétien, t'as vu, il y a des jouets qui traînent, c'est pas très... » Est-ce que ce sont des pensées spirituelles, ça? Est-ce que Christ, une seule fois, a dit « Ben... cette maison, j'y entre pas parce que c'est le bazar. » Non, mais des fois, on peut se faire mal, on peut se blesser et mener des batailles et créer de la zizanie dans la famille à cause de ça, quoi. Ça tient pas devant Dieu, ça. C'est pas une bataille à mener. Non. Et il est important aussi d'en se servir sa famille, de dire à l'autre, écoute, là, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Plutôt que de vouloir faire le coq ou la coquette, si on peut dire ainsi. Je peux me débrouiller seul. Mais on a besoin de considérer que l'autre est là aussi pour nous aider, qu'on a besoin de l'autre. C'est pas humiliant. C'est le monde qui nous dit, si tu peux pas tout faire, t'es pas à la hauteur. Mais Dieu a souhaité que le corps de Christ soit en interdépendance les uns des autres. La tête peut-il dire à la jambe, j'ai pas besoin de toi? Ou le bras peut-il dire à l'épaule, j'ai pas besoin de toi? Non. Regardons, Dieu nous a pas créés parfaits afin justement que nous soyons interdépendants les uns des autres. Interdépendants les uns des autres. Éphésiens 5, 25 à 27. Quant à vous, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Et si on fait un parallèle, Christ a passé sa vie à s'engager à notre côté. Il s'engage, il est fidèle à son Église. Il se donne pour elle, il la chérit, il se la présente à lui sans tache ni ride et digne de Dieu. Il la considère comme la prunelle de ses yeux. Il est un exemple de droiture et lui-même de soumission vis-à-vis du Père. Et il la sert par le partage de la connaissance de Dieu. Bénir sa femme et veiller à son épanouissement, c'est la servir comme le Christ sert l'Église. Je ne prendrai pas les versets avant qui parlent de la soumission de la femme, c'est encore tout un débat. Mais j'invite aussi les femmes à servir leur mari, à ne pas vouloir dominer, mais même plus compétentes, à se mettre au service, à compléter les incompétences de leur mari. Et à ne pas utiliser, d'ailleurs, mari comme femme, à ne pas utiliser nos compétences supérieures pour dominer sur l'autre, une domination servile. Et moi je t'apprends, heureusement que je suis là pour toi. Mais le Seigneur nous invite à nous servir mutuellement, les uns les autres, en fonction des dons qu'il nous a donnés. C'est ça notre rôle. Je ne vais pas plus loin parce qu'on pourrait en développer, il y a tous des week-ends des camps pour parler plus largement de ça. Et je suis prêt à revenir si vous voulez développer ces aspects de la vie de couple. En tant que parents, servir nos enfants. Et c'est leur offrir un cadre sécurisant pour chacun. Cela passe par une bonne relation entre les parents, d'abord. Car c'est à travers eux que nos enfants se feront une certaine image de Dieu. Si par exemple, au quotidien, nous réagissons par le stress, par la tension, par de l'anxiété, quelle image risque-t-il d'avoir de Dieu ? Une image peut-être que Dieu est incompétent, pour nous apporter la sécurité. Et peut-être une image que Dieu a autre chose à faire que de prendre soin de nous. Alors que dans Matthieu 6, 25, il est dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et boire, mais en toute chose, faites confiance à Dieu. » Et la suite. Ce que nos enfants attendent de leurs parents, ce sont des figures éducatives et de la cohérence entre ce qu'ils professent et ce qu'ils vivent au quotidien. De la cohérence entre ce que maman et papa disent, même si des fois ils ont des avis différents. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on demande aux enfants. Parce qu'autrement, ils vont savoir jouer, hein, sans problème. Et ils n'ont pas besoin de l'apprendre, c'est quelque chose d'inné. Mais il y a des petites choses comme ça, chez l'un on reçoit plus de chocolat, chez l'autre on reçoit plus... Mais il y a des choses fondamentales, des options éducatives fondamentales sur lesquelles il faut pouvoir se mettre d'accord. Et c'est servir ses enfants, leur apporter de la cohérence, vraiment. Et peut-être que nous avons des affinités... Et nous avons des affinités différentes avec l'un ou avec l'autre. Parce que c'est comme ça. Mais nous sommes invités vraiment à les aimer chacun, à consacrer du temps à chacun, de l'écoute, à valoriser ce qu'ils savent faire. Parce qu'autrement, si on prend par exemple l'exemple de la fratrie de Joseph, on voit qu'en étudiant le texte, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de jalousie, que Jacob a introduit beaucoup de jalousie parce que Joseph était son préféré. Et ça a créé la jalousie avec les autres frères. Lui, il avait une plus belle tunique que les autres. Et donc, veillons à ne pas privilégier les uns par rapport aux autres. Vraiment. Vraiment. C'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de les enseigner dans les voies de Dieu. Proverbe 22, 6, il est dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est notre rôle. Ce n'est pas à l'Église, en premier lieu, d'enseigner nos enfants. C'est nous, en tant que parents, chrétiens, à enseigner nos enfants. L'Église apporte un complément. Ce n'est pas aller à l'école d'enseigner les choses spirituelles à nos enfants. L'école, ils enseignent des choses temporelles, nécessaires à la vie temporelle. Mais l'aspect spirituel, c'est à nous de le faire en premier. Alors, la partie moins agréable, il est aussi nécessaire de corriger des fois nos enfants, sans les dresser. Les corriger, ça ne veut pas dire que ce soit systématiquement une sanction corporelle, et pas nécessairement. Alors aujourd'hui, il y a des débats, en France aussi, la fessée est interdite depuis quelques années aussi, en Suisse, je ne sais pas où il en est. Mais ce qui est important, et dans Proverbe 13, donc 23, il est dit « Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas, celui qui l'aime le corrige de bonne heure. » Donc, châtier dans le sens corriger, aider à prendre conscience de l'erreur qu'ils ont pu faire et des erreurs ils en font. C'est normal, ça fait partie de la croissance. Et des sanctions éducatives qui aident à réfléchir au sens de la faute et qui l'aident à assumer les conséquences de ses erreurs. C'est important. Et ainsi, il apprendra à devenir responsable et il n'accusera pas les autres de tous les maux. Et des fois, on veut faire des raccourcis. Lorsque nos enfants se disputent, on demande « Allez, demande pardon !» Alors gentiment, ils demandent pardon, parce qu'ils savent très bien après que les parents leur ficheront la paix. Mais est-ce qu'on prend le temps de réfléchir avec lui « Pourquoi tu devrais demander pardon ?» Pour qu'il prenne conscience de la blessure qu'il a occasionnée à l'autre et qu'il y ait une demande de pardon sincère. Il y a aussi dit dans Éphésiens 6:4, vous pères et mères aussi, parce que les mères peuvent aussi exaspérer leurs enfants, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Attention, attention, attention à des exigences trop dures, afin qu'ils ne soient pas découragés, qu'ils n'aient pas ce sentiment que jamais, jamais, ils ne peuvent rendre leurs parents heureux, jamais ils ne peuvent les satisfaire. C'est décourageant, au possible. Et est-ce que Dieu est tout le temps en train de pointer ce que nous ne faisons pas? Est-ce qu'il nous disqualifie lorsqu'après des années de vie, on continue à réagir comme si on ne le connaissait pas? Est-ce qu'il nous dit « ça suffit maintenant, allez, fous le camp, ça suffit ?» Non. Il persévère avec nous, il nous fait grâce. Et il accepte que pour arriver à un même but, on puisse des fois prendre des chemins autres que ceux que nous prendrions. N'exaspérons pas nos enfants. Là encore, nous donnons une mauvaise image de Dieu qui ne passe pas son temps à pointer tout ce qui ne va pas. Mais par contre, nous sommes invités, lorsqu'ils sont en difficulté, à les accompagner, à les relever, à les aider à se développer, à aider à surmonter leurs peurs, à les aider à développer des capacités d'adaptation pour aller plus loin. Les difficultés de la vie sont nécessaires pour qu'ils croissent. Donc là aussi, les aimer, c'est ne pas balayer toutes les difficultés de la vie, mais c'est les aider à les traverser. Et en tant que... Voilà, ça je l'ai lu. Et en tant qu'enfant, je pense que c'est important aussi de pouvoir accepter les réprimandes. Celui qui refuse d'être repris se méprise lui-même. Mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Autant les parents sont invités à ne pas être orgueilleux vis-à-vis de leurs enfants, autant les enfants sont invités aussi à ne pas faire preuve d'orgueil et analyser pourquoi il y a tel ou tel avertissement qui a été posé, telle ou telle limite, et à s'y soumettre. Jésus a été soumis à ses parents. En Luc 2, versets 42 à 52, cela est rapporté. En tant qu'enfant, vous pouvez devenir mûr selon Dieu et capable aussi de faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas aux yeux de Dieu. La maturité spirituelle ne vient pas toujours avec l'âge. Vous pouvez être une source de bénédiction pour vos parents. Parce que pour ceux qui ont fait le choix, en plus de donner leur vie à Christ, vous êtes aussi frères et sœurs en Christ. Servir les uns les autres afin d'honorer Dieu. Il est important de pouvoir se demander mutuellement pardon. Parents ou personnes en responsabilité éducative, nous ne perdons pas d'autorité. Bien au contraire, si nous demandons pardon à nos enfants, on ne perd pas de l'autorité. Et je crois que cela réjouit beaucoup nos enfants. Et nous leur offrons un cadeau inestimable, parce qu'ils développeront plus d'amour vis-à-vis de nous, plus d'amour vis-à-vis d'eux-mêmes. Et cela peut vraiment, vraiment changer leur vie, notre vie, nos relations avec eux. J'étais éducateur pendant 24 ans dans une maison d'enfants et dans un groupe que des filles. Et j'étais référent d'une fille qui en gros ne me supportait pas aussi parce que ses parents étaient chrétiens, elle était placée, moi je suis chrétien. Et du coup il y avait quelque chose qui était difficile et puis il y avait une opposition à l'homme. Bon, j'étais son éducateur d'un groupe que de filles, voilà. Et je me rappelle d'un jour où je travaillais un samedi, elle était en famille, et puis je travaillais seul avec six filles, et elle m'avait chauffé à blanc, ces six filles. Et je travaillais seul, j'avais pas de collègues qui pouvaient, avec qui je peux dire, écoute, prends-les là. Et moi, je sors un peu, j'ai fait crier dans la. Mais j'en pouvais plus, quoi. Et puis, cette fille est venue le soir, paisible, et je sais plus ce qui s'est passé, mais la pauvre, elle a pris toute ma colère, quoi. Et le lendemain, je suis allé la voir et je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, en tout cas, je te suis injustement tombé dessus. J'ai pas été droit, j'ai pas été juste. Et je te demande sincèrement pardon de t'avoir blessé. Et de ce jour-là, je suis pas devenu son éducateur chéri, mais ça a changé nos relations. Et puis elle est allée dire à la lingère, tu te rends compte, c'est la première personne qui me demande pardon. Nous avons besoin, en tant que parents, de faire preuve d'humilité vis-à-vis de nos enfants. Nous avons besoin, en tant qu'enfants, de faire preuve d'humilité vis-à-vis de nos parents lorsque nous sommes convaincus d'avoir mal agi. Et en tant que parents, nous pouvons aussi aller trouver chacun de nos enfants et leur demander « Est-ce que dans ta vie, j'ai laissé un boulet ?» Quelque chose qui te reste là, qui t'empêche de croître, qui t'empêche d'avoir une bonne image de toi. Est-ce que dans ta vie, j'ai laissé un boulet ? Et si à oui, tu m'as laissé ça, ça, ne commençons pas à nous justifier. Mais tu comprends, c'est aimé, tu comprends. Non. Taisons-nous et acceptons et demandons-leur comment est-ce que je peux éventuellement réparer ? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois bien ? Parce que je veux te bénir. Accordez le pardon à vos enfants parce qu'ils sont faillibles. Ils ont besoin de votre grâce. Ils ont besoin de votre grâce. Sachons aussi se pardonner. Dans le sens, accepter le pardon que Christ nous a fait à la croix. Et des fois, toute sa vie, on peut se sentir écrasé et ne pas se pardonner après ce que j'ai fait. Je ne peux pas me pardonner, je ne peux pas m'accorder cette réhabilitation que Christ m'a accordée. Quel dommage! Accordons-nous ce pardon que Dieu nous a accordé. Nous avons le droit de vivre, de croître, de continuer à servir, de bénir, même si nous avons commis des erreurs. Et de cette manière-là, nous honorerons Dieu. Je saisis ce que tu m'as donné. Même si mon cœur me dit non, je choisis de saisir ce que tu m'as donné et de vivre avec cela, en fonction de cela. Matthieu 18, versets 21-22, il est dit « Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois dois-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» « Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. » 7 fois. Que nous soyons cohérents entre ce que nous professons et ce que nous vivons au sein de notre famille, que les gens qui nous côtoient, qui nous voient et disent waouh, moi je sais que chez vous ça frite aussi, mais vous savez vous pardonner. Vous savez composer ensemble, vous savez accepter des différences. On voit que vous cherchez la paix. On voit que vous parlez aussi des choses qui se passent dans le monde, des lois qui changent, des défis à mener. Mais on sent quelque chose. Si vous avez quelque chose de différent, vous pouvez nous dire. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Ils ont besoin, ils le sentent, des fois plus que nous le sentons. Et pour conclure, j'aimerais lire ce texte. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc office d'ambassadeur de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. On utilise souvent ce texte pour dire « soyons ambassadeurs de Christ, réconcilions Dieu, les hommes avec Christ ». Mais dans le contexte de ce texte, il est parlé de l'Église. Nous sommes invités à être ambassadeurs de Christ les uns avec les autres, en endossant et en vivant la réalité d'une vie nouvelle en Christ. Jeune ou non jeune, il n'y a pas d'âge pour grandir spirituellement. Cette sanctification progressive a lieu tout au long, jusqu'à notre dernier souffle. Et cet objectif nous concerne tous. N'attendons pas que les autres membres de la famille croissent s'ils n'ont pas envie de croître. N'attendons pas. Christ nous dit, mais toi, que fais-tu de moi? Toi, que fais-tu de mon enseignement? Toi, crois, même si l'autre stagne. Toi, crois et bénis les autres. Notre identité d'homme naturel n'est plus à servir et à nourrir. Nous sommes une nouvelle créature, des fils et des filles de Dieu. Alors Dieu nous invite à réagir selon ses références. Nous ne sommes plus obligés de pécher en entretenant la colère et le vouloir contrôler et d'autres choses encore. Notre mission première est de représenter Christ auprès de nos contemporains et des plus proches d'entre eux, ceux de notre famille. Nous pouvons être trompés, mais nous pouvons avoir l'humilité de reconnaître nos torts et changer nos comportements. Nous avons besoin de prières les uns les autres pour nos différentes générations. Alors je vous invite à entrer dans cette perspective de vie familiale, dans cette croissance, et à ne pas rester sur nos blessures, à ne pas rester sur « on a toujours fonctionné comme ça ». Et c'est moi le chef de famille, et c'est moi le plus ancien, et c'est moi le plus jeune, vous les vieux, vous n'y comprenez rien. Votre vie est passée, nous savons mieux. Un jour, quand j'étais responsable du groupe de jeunes, on allait animer le culte et une jeune disait « on va leur montrer ce que c'est qu'un vrai culte ». J'ai dit « oh, attends, sois pas prétentieuse, hein. On va leur montrer ce que c'est qu'un culte ». Il y a des façons de vivre le culte différent, avec des attentes différentes, mais n'est surtout pas là pour leur donner la leçon. Toi, apprends ce que tu as à apprendre. Et un culte bien géré, c'est un culte où Christ est au centre. Amen. Seigneur, j'aimerais te remettre ton Église, te remettre cette communauté ici, ceux qui la fréquentent, qu'ils soient présents ici ou chez eux ou ailleurs. Seigneur mon Dieu, manifeste-toi s'il te plaît. Nous avons besoin de l'œuvre de ton esprit en nous, afin de comprendre ces choses et de pouvoir les faire vivre, afin que ce que nous avons appris ou réentendu aujourd'hui ne reste pas là, quelque part, comme une connaissance intellectuelle. Ah, c'était bon, un bon message, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que nous avons à apprendre, chacun, individuellement, pour de plus en plus te ressembler, pour exercer ce ministère de réconciliation, ce ministère de bénédiction les uns vis-à-vis des autres. Seigneur, opère des miracles là où il y a besoin. Parce que des fois, il ne suffit pas de vouloir le faire. Des fois, on ne sait pas. Et donne-nous cette humilité de dire, Seigneur, je sais ce que je dois faire, mais je ne sais pas. Et j'ai besoin que tu me transformes pour que ce que tu me dis devienne une évidence et un vécu. Éternel, prends-nous par la main chacun, afin que nous t'honorions dans notre vie de tous les jours, auprès de nos plus proches, premièrement.